Mesdames et messieurs, fidèles auditrices et auditeurs, merci d'être à l'écoute du studio Kalangu. Au micro, Aline Ali Abdoulmouni, nous sommes aujourd'hui à Birnin Gaouré dans les locaux de la radio Marhaba, une radio partenaire du studio Kalangu, pour notre forum d'aujourd'hui dont le thème est « Respect du délai de libération des champs dans le département de Bobo ». Nous sommes en compagnie de M. Boubacar Oumarou. Il est le secrétaire permanent de la commission foncière départementale COFODEP. Nous sommes également avec M. Jean Bouquet, il est agriculteur, M. Boubacar Hamma Beydi, personne ressources, M. Abdou Garba, dit Soumaï de l'AREN, l'association pour la redynamisation de l'élevage au Niger. Chers invités, bienvenue au forum du studio Kalamou. Ce forum, c'est un rappel et diffusé sur l'ensemble des 8 régions du Niger grâce à un réseau de 52 radios partenaires. Chères auditrices et chers auditeurs du studio Kalangu, le Boboy, le département de Birnin Gaouré en particulier, est une zone d'agriculture et d'élevage par excellence. La richesse de sa nappe phréatique en natron attire les éleveurs désirant venir faire paître et abreuver leurs troupeaux. À la fin de la saison pluvieuse et au moment où certaines récoltes ne sont pas encore terminées, c'est en ces temps que le troupeau quitte la zone aride et descend en grand nombre dans la vallée, à la recherche de points d'eau. C'est en ce moment que des incompréhensions naissent entre agriculteurs et éleveurs. Des conflits qui se soldent souvent dans le département par des blessés et souvent par des morts d'hommes. Quelle est la situation agro-pastorale dans le département de Birnin Gaouré aujourd'hui? Est-ce que les agriculteurs et les éleveurs cohabitent bien? Chers invités, nous allons commencer par le secrétaire permanent de la commission foncière. Quelle est la situation agro-pastorale dans le département de Birnin Gaouré?
Merci bien. Je remercie le studio Kalangu pour nous avoir donné l'occasion d'apporter quelques éléments d'éclaircissement sur le thème d'aujourd'hui. La situation agro-pastorale du département de Boboy varie en fonction des communes. Donc dans d'autres communes, on est déjà au niveau au stade des récoltes. D'autres, c'est maintenant que les champs ont commencé à épier. Oui. C'est la situation. En ce qui concerne aussi les pasteurs, donc la situation pastorale du département, elle n'est pas du tout satisfaisante. Donc, compte tenu de la situation, de la rareté des pluies dans le département, donc si on prend le Fakara, donc il n'y a pas eu vraiment beaucoup, comment dirais-je, que la couverture végétale n'a pas été à la hauteur de nos attentes. Dans la vallée aussi, dans les Daloul, et les mares n'ont pas vraiment pu prendre de l'eau, compte tenu de l'insuffisance donc de la pluviométrie. C'est la situation actuelle donc du département de Boboy.
Monsieur Jean Bouquet, quelle est la situation agricole dans le département de Birnin Gaouré?
Bon, à ma connaissance, parce que j'ai pas tellement sillonné toute la zone, mais ce que j'ai vu de mes yeux, il y a déjà les cultivateurs qui ont commencé à récolter, à couper leur mil, et d'autres attendent, disons, ça commence à donner. Il y a le mil tardif aussi, vraiment, ils disent que ça promet. Donc, on peut espérer une bonne récolte parce qu'au début, on avait eu peur, on avait complètement désespéré. On ne pensait même pas avoir de quoi survivre quelques mois. Mais comme les pluies sont revenues, vraiment, on espère une bonne récolte.
Merci. Abdou Garba, quelle est la situation des éleveurs, la situation pastorale?
La situation pastorale au niveau de Boboy, je pense bien qu'il y a des endroits que vraiment ça va. Mais il y a des endroits aussi que vraiment ça ne va pas. Parce qu'il y a eu une chasseresse qui a pris du temps. Il n'y avait pas suffisamment de l'eau. Donc s'il n'y a pas de l'eau, vous voyez, l'herbe ne pousse pas comme il le faut. Donc tant que l'herbe ne pousse pas aussi, vraiment les animaux n'arrivent pas à paître comme ils le veulent. Voilà. Donc, il y a d'autres endroits, vraiment, ça va. Mais d'autres endroits, vraiment, ça ne va pas. Fils Birillah.
Et la situation du point de vue de la santé du bétail?
Bon, pour la santé, je pense bien que ça va. Parce qu'il y a les vétérinaires privés mm-hmm. qui sont là. À ma connaissance, ils ont sillonné tout le département. Mm-hmm. Vraiment, sauf si la personne refuse de faire la vaccination. Mais la disponibilité, elle est là.
Elle est là.
Vraiment, la disponibilité, elle est là. Donc, à ma connaissance, c'est comme ça.
Monsieur Boubacar Hamou, oui. Personne aux ressources.
Oui.
Et aussi du monde rural.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à la situation agro-pastorale?
Bon, en ce qui concerne l'agriculture, oui. c'est ce que Jean a dit, mm-hmm. ça va. Mm-hmm. Parce qu'au début, on était inquiets mm-hmm. parce qu'il y avait eu une sécheresse mm-hmm. et il y a eu des décalages de semis. Mm-hmm. Il y a des gens qui ont semé, mm-hmm. premièrement, mm-hmm. il y a d'autres qui ont semé en retard.
En retard.
Mais actuellement, mm-hmm. il y a des endroits où on est en train de récolter, mm-hmm. il y a des endroits où le mil est en épuisé d'eau, mm-hmm. et avec ces dernières pluies-là, mm-hmm. ça commence à aller, il y a quand même de l'espoir.
Il y a de l'espoir.
Il y a de l'espoir.
Merci. Monsieur Jean Bouquet, la cohabitation entre vous, les agriculteurs et les éleveurs dans le département de Birnin-Gaouré, quelle est la situation?
Alhamdulillah, Rabbil Alamina. Il fut des temps où mm-hmm. c'était vraiment, on parlait trop, Birni, il y a trop de problèmes entre mm-hmm. éleveurs et agriculteurs. Mm-hmm. Mais si on jette un coup d'œil aujourd'hui, on regarde bien, mm-hmm. vraiment, ça s'est beaucoup amélioré.
Ça s'est beaucoup amélioré.
Les associations ont fait de leur mieux. Mm-hmm. Ils ont sensibilisé les gens mm-hmm. et la cohabitation revient mm-hmm. à bon terme.
À bon terme. Oui. Monsieur Abdou Garba.
Comme Monsieur Jean l'a dit tout à l'heure, je pense que vraiment, la situation, elle est bonne.
Elle est bonne.
Elle est bonne, vraiment. D'autant plus que maintenant, il y a plus de 3 associations d'éleveurs qui sont là. Ils sont là en train de sensibiliser les éleveurs. Mm-hmm. Ils sont là en train de sensibiliser les agriculteurs également. Mm-hmm. Donc vraiment, compte tenu de toutes ces sensibilisations-là, mm-hmm. vraiment les gens ont compris mm-hmm. que inutile vraiment mm-hmm. de se décarcasser pour rien du tout.
Du tout.
Il faut vraiment que... Et je pense que vraiment ça va maintenant.
Okay, merci.
Oui.
Monsieur Boubacara Oumarou, la cohabitation entre les agriculteurs et les éleveurs.
En tout cas, ici dans le département du Boboy, donc nous, au niveau de la commission foncière départementale, en collaboration avec les associations de pasteurs et la société civile, il y a eu des actions qui ont été menées, donc notamment les actions de sensibilisation et aussi l'installation des commissions foncières de base dans les villages. Mm-hmm. Donc ça aussi, c'est un facteur qui a contribué, qui a beaucoup contribué donc, mm-hmm. à diminuer les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Mm-hmm. Parce que dans ces formations, mm-hmm. donc il y a des modules mm-hmm. sur la gestion mm-hmm. des conflits.
Des conflits.
Donc les procédures mm-hmm. d'indemnisation des mm-hmm. liés donc aux dégâts champêtres. Mm-hmm. Donc tout ça là, ce sont des outils. Mm-hmm. Donc, sur lesquels mm-hmm. on s'est basé pour sensibiliser mm-hmm. la population, les agriculteurs et les éleveurs. Mm-hmm. Donc, on les a fait comprendre que c'est pas parce que mm-hmm. tes animaux mm-hmm. ont
fait des dégâts champêtres.
Des dégâts champêtres sur un champ mm-hmm. d'autrui mm-hmm. que forcément il faut qu'il y ait mm-hmm. un conflit entre vous. Mm-hmm. Donc, il y a des procédures à suivre et vraiment les gens ont compris.
D'accord, nous allons revenir pour ça. Monsieur Jean Bouquet, selon vous, quelles sont les causes des conflits entre vous, agriculteurs et éleveurs, dans le département de Birnin-Gaouré?
Ce qui peut les mettre en conflit, mm-hmm. et quand l'éleveur, ses animaux, mm-hmm. pénètrent dans le champ mm-hmm. du cultivateur, mm-hmm. vraiment, avant de remédier au problème, mm-hmm. s'ils ne s'entendent pas bien, mm-hmm. ça peut amener des conflits graves. Mm-hmm. Voilà pourquoi les sensibilisations, là, ont toujours aidé.
Donc, c'est principalement, selon vous, les dégâts champêtres.
Les dégâts champêtres, oui.
D'accord. Monsieur Abdou Garba, selon vous, quelles sont les causes des conflits entre agriculteurs et éleveurs dans le département de Bobo?
Merci. Les causes principales des conflits entre éleveurs et agriculteurs, mm-hmm. la première des choses, mm-hmm. c'est le manque de respect des couloirs de passage. Mm-hmm. Les aires de pâturage, mm-hmm. les points d'eau. Mm-hmm. Donc, ça cause vraiment, c'est les causes principales mm-hmm. pour les conflits agriculteurs et éleveurs. On a une aire de pâturage. Mm-hmm. Ça, il y a des papiers qui sont là. Mm-hmm. Maintenant, l'agriculteur mm-hmm. refuse de respecter ce document-là.
En faisant comment?
En grignotant l'aire de pâturage. Mm-hmm. Vous voyez? Mm-hmm. Donc, il y a une aire de pâturage. C'est bien dit que c'est une aire de pâturage. Mm-hmm. Et maintenant, un agriculteur peut venir grignoter cette aire de pâturage-là pour faire un champ. Mm-hmm. Maintenant, mm-hmm. dans une aire de pâturage, si on fait un champ, mm-hmm. qu'est-ce que ça va devenir?
Ça va devenir une source.
Ça va devenir une source de conflit, mm-hmm. n'est-ce pas? Mm-hmm. Ou bien un couloir de passage qui est bien connu, mm-hmm. bien connu. Mm-hmm. Maintenant, ce couloir de passage-là, quelqu'un vient, il sème sur le couloir de passage. Mm-hmm. Maintenant, les animaux veulent passer mm-hmm. vraiment pour aller au point d'eau. Mm-hmm. Et lui, il a semé.
Il n'y a pas de chemin.
Il n'y a pas de chemin. Le chemin est barré. Mm-hmm. Donc, il va dire que les animaux ne vont pas passer. Mm-hmm. L'éleveur va dire que les animaux vont passer. Mm-hmm. Donc, ça cause vraiment un conflit. Je pense que c'est ça. Mm-hmm. Si, par exemple, je prends de Yeda, mm-hmm. en passant par Koigolo, mm-hmm. en passant par Ngonga, mm-hmm. jusqu'à arriver Fabiji mm-hmm. et aller vers Bumba, mm-hmm. il n'y a aucun aire de pâturage présentement. Mm-hmm. Il n'y a pas un point d'eau qui est réservé pour ces animaux-là. Mm-hmm. Donc, je ne sais pas, je me suis un peu précipité pour mm-hmm. la descente des animaux, et la descente précoce des animaux. Mm-hmm. Mais les animaux n'ont pas d'aire de pâturage où se reposer. Mm-hmm. Ils n'ont pas un point d'eau vraiment là où ils vont prendre de l'eau comme mm-hmm. il le faut. Les gens sont obligés vraiment de descendre. Parce que là-bas, le haut là aussi, il n'y a rien.
Donc la descente précoce, les animaux.
Oui, la descente précoce, c'est les causes. Mm-hmm. C'est ça les causes même. Mm-hmm. C'est le manque de tout ce que je viens de citer là.
Ok, d'accord, merci. Oubokarama Bedi, selon vous, qu'est-ce qui peut amener qu'un agriculteur et un éleveur entrent en conflit?
Bon, voilà, ce qui amène le conflit, d'abord, il y a le dégât champêtre. Mm-hmm. Ensuite, après le dégât champêtre, il y a les couloirs de passage obstrués par les cultivateurs. Mm-hmm. Et ensuite, il y a des aires de pâturage occupées par certains agriculteurs. Mm-hmm. Et alors, deux fois, en cas de dégâts de champs, mm-hmm. il y a l'agriculteur qui veut coûte que coûte conduire les animaux mm-hmm. à la fourrière mm-hmm. et le propriétaire refuse. Mm-hmm. Ça aussi, ça amène des conflits. Et donc, il y a aussi la faute de certains éleveurs mm-hmm. en confiant un troupeau à des enfants de 7 à 8 ans oui. pour aller paître. Mm-hmm. Parce que dès qu'on crie sur eux, ils se sauvent et ils laissent les animaux en divagation. Ça aussi, ça cause des problèmes. Mm-hmm. Mais Dieu merci, mm-hmm. ça fait à peu près 5 ans, mm-hmm. avec la sensibilisation mm-hmm. des éleveurs mm-hmm. et la radio Maraba, mm-hmm. vraiment les éleveurs ont compris mm-hmm. et les agriculteurs ont compris. Mm-hmm. Ça fait presque 5 ans, mm-hmm. on ne constate pas des bagarres mm-hmm. entre éleveurs et agriculteurs.
Comme avant?
Avant. Avant, il y avait même des morts d'hommes, il y avait tout.
Merci. Boubacar Oumarou, dans la fonction que vous occupez, qu'est-ce qui peut être la base d'un conflit entre agriculteurs et éleveurs?
Ce sont les causes, donc c'est ce que les gens et les autres ont dit ici. Mm-hmm. Les causes, donc d'abord, c'est le non-respect mm-hmm. des limites mm-hmm. des ressources pastorales. Mm-hmm. Donc, que ce soit les couloirs de passage, les aires de pâturage, les points d'eau, mm-hmm. ça cause vraiment des conflits. Et il y a aussi le non-respect mm-hmm. des tests. Mm-hmm. Par exemple, pour amener des animaux, mm-hmm. Comment dirais-je,
dans une aire de pâturage.
Non, au niveau du fourrière là.
Mm, de la fourrière, oui.
De la fourrière, il y a une procédure à suivre. Mm-hmm. Parce que ce n'est pas tous les animaux qu'on doit amener, même si mm-hmm. les animaux, tu les trouves dans ton champ. Mm-hmm. Si tu connais le propriétaire de ces mm-hmm. animaux-là, tu n'as pas le droit de les amener. Mm-hmm. Donc, à la fourrière. Mm-hmm. Donc, et surtout que parfois, mm-hmm. le propriétaire est même présent. Mm-hmm. Et l'agriculteur, il force pour aller pour ouais, amener
tient, ses, ouais, ses... Il tient coûte que coûte à conduire amener, les animaux à la fourrière.
À la fourrière. Alors que tout ça, ce sont des sources de conflits. Et la troisième mm-hmm. cause, mm-hmm. Et c'est aussi la descente précoce des animaux. Donc les autres n'ont pas fini de récolter et les animaux sont là. Donc maintenant...
Donc si je comprends aussi, il y a le facteur aussi que les mares qui sont dans les zones semi-arides aussi tarissent très vite.
Oui, ce sont des mares semi-permanentes.
Okay.
Donc après la dernière pluie, au minimum ça ne dépasse pas 2 mois, 3 mois que les mares là sont déjà...
sèches quoi. Ok, merci. Donc, venons-en à présent à la question de la libération des champs, comme on avait évoqué. La question de la libération des champs aussi fait l'objet de ce forum et c'est un engouement que je constate pour pouvoir participer à ce forum-là. Monsieur Boubacar, quels sont les problèmes les plus fréquents pendant la libération des champs?
Les problèmes?
Les plus fréquents.
Ouais, les problèmes, c'est surtout les dégâts champêtres. C'est ça, parce que les animaux, s'ils descendent, précocement, forcément la vallée là où la vallée du Dallo là ne peut pas supporter tous les animaux. Donc forcément les animaux vont empiéter sur les cultures et ça va provoquer des dégâts champêtres. C'est ça.
Monsieur Jean Bouquet, quels sont les problèmes les plus fréquents que vous en tant qu'agriculteur vous rencontrez pendant la libération des champs?
Pendant la libération des champs, la date est fixée. Des fois vous voyez les animaux errer dans les champs avant même la date.
La date.
Donc tout ça là, ça cause des problèmes.
Boubacar Amma.
Oui, le problème, pendant que les animaux viennent, déjà les travaux ne sont pas terminés.
Terminés.
Et on fixe la date. On dit à telle date. Avant même de fixer la date, déjà les animaux sont là. Et les récoltes ne sont pas terminées. Et pourquoi? Parce que tous les animaux des autres départements, du département de Kolo, département de Dosso, tous viennent dans le Dallol. D'abord, la première raison, à cause du natron, à cause de l'eau. Et deuxièmement, à cause du pâturage. Donc, ils viennent précocement. Les gens n'ont pas terminé. Et c'est très difficile de pouvoir contenir les troupeaux. Et les animaux, dès que la période approche, qu'il y ait eau ou il n'y a pas, ils viennent. Les bergers ne peuvent pas les contenir.
Donc d'autres échappent même.
Ils échappent. Et encore, il y a certains éleveurs de mauvaise foi qui arrivent sur le plateau, ils abandonnent les animaux et ils laissent rentrer dans les champs
des agriculteurs.
Et ça aussi, ça cause des problèmes. Et pour fixer la date de libération, là, on ne peut pas rester dans les bureaux en réunion, dire voilà. Il faut associer les agriculteurs, les éleveurs, pour chacun donne son point de vue. Et avec un consensus, ils arrêtent une date.
D'accord. Monsieur Abdou Garba, vous qui êtes proche des éleveurs, quels sont les problèmes les plus fréquents pendant la libération des champs?
Les problèmes les plus fréquents, j'ai évoqué ça un peu bien avant. Donc, et sur le plateau, les eaux tarissent facilement. Et on n'a pas là où garder ces animaux-là. On n'a pas un endroit sûr pour les faire abreuvoir, n'est-ce pas? Donc, c'est ce problème-là qui fait que les animaux descendent précocement. Vous voyez?
Donc, les éleveurs ne peuvent plus les contenir.
Ne peuvent plus les contenir là-bas. Ce n'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas d'eau. L'herbe, là, c'est devenu chasse. Et que c'est une période où les animaux eux-mêmes, ils sentent ça. Dès que le moment est venu, tu ne peux pas les garder. Wallahi, tu ne peux pas les garder. Mais on dit une date, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas où les garder. Vraiment, c'est difficile. C'est un problème.
C'est un problème.
Wallahi, c'est un problème.
D'accord, merci. Comment on y procède ici dans le département de Birnin-Gaoré pour fixer la date de libération?
Bon, d'abord, voilà comment ça se fait. Au niveau de chaque commune, fait une réunion avec ses conseillers et avec les agriculteurs, avec les éleveurs.
Les conseillers communaux.
Les conseillers communaux pour proposer une date de libération. Donc après la proposition des communes, on envoie ces propositions au niveau du département. Et le département réunit aussi ses techniciens et tout le monde avec les associations pour voir les propositions des communes et arrêter aussi une date convenable pour envoyer au niveau de la région. Maintenant, la région centralise pour le département pour fixer une date pour la région. Mais seulement cette date, c'est un peu compliqué parce que la date de libération des champs dans le Boboy, avec celle de la région de Gaya, ce n'est pas la même chose. Oui, parce que dans le Bobo, il faut vraiment... Avant fin novembre déjà, tout est fini. Mmh. Et dans la région de Gaya, il y a les sorgho, il y a les mûres tardives, il y a beaucoup. Donc c'est pourquoi ils ne peuvent pas avoir les
mêmes dates de libération.
Bon, maintenant, quand la région a fixe, on fait un arrêté pour dire, voilà, date de libération à partir du 15 novembre pour le département de Bobo-Dioulasso et pour la région de Gaya à partir de fin novembre ou début décembre, ainsi de suite. Mais tout ça, là, les champs sont déjà libérés avant même la date. Mm-hmm. Une année, on était en réunion pour proposer déjà de Margo jusqu'à Kouassi, tout est vide.
Tout est vite.
Oui, c'est fini. Parce que ce qui fait cela, oui. Quand un agriculteur finit de son travail, mm-hmm. il ramasse son haricot et tout, il amène lui-même ses animaux dans son champ. Mm-hmm. Et c'est ça qui provoque encore des problèmes. Mm-hmm. Parce que quand on interdit à tout le monde. Mais tu ne peux pas libérer ton champ avant les autres. Mm-hmm. Oui. Mm-hmm.
Abdou Garba, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à la procédure?
Pour la libération des champs.
La libération, comment on y procède?
Bon, moi ce que je dirais, surtout fixer une date pour la libération des champs, vraiment c'est un problème. Mm-hmm. C'est un problème, franchement. Parce que c'est difficile de respecter cette date-là.
Oui.
Pourquoi? D'autant plus que sur le plateau, il n'y en a pas d'eau. Mm-hmm. Il faut tenir en compte de tout ça-là. Tenir compte des aires de pâturage. Parce que là, où on n'a pas où garder ces animaux-là, si on fixe une date. Donc la date ne sera pas respectée.
Mmh.
Donc c'est tout ce que je voudrais ajouter.
D'accord. Et Monsieur Boubacar Oumarou, sur la procédure de la fixation de la date de libération, vous avez quelque chose à ajouter?
En tout cas, c'est ce que la personne de ressources il a déjà mentionné, c'est la procédure à suivre. Mmh. C'est-à-dire c'est au niveau commune, et puis après au niveau département, et puis en dernière... position, c'est le niveau régional. Mais entre les trois étapes là, mm-hmm. parfois il peut y passer plus de 3 mois.
Mm-hmm.
Donc vous avez déjà, et parfois même la région pour qu'ils se réunissent pour décider, parfois c'est même difficile.
C'est difficile.
Donc c'est pour ça au niveau de la commission foncière départementale avec le code rural, mm-hmm. les gens sont en train de réfléchir si on ne peut pas ramener la date de libération de ça au niveau communal.
Mmh.
Parce que parfois, même dans le même département, la saison n'est pas la même.
Mmh.
Par exemple, d'autres aujourd'hui, ils ont déjà récolté, ils ont fini de récolter.
Mmh.
D'autres n'ont même pas commencé.
Mmh.
Donc, si on fixe une date,
mmh.
donc, soit les autres vont commencer et créer
des conflits
avec les autres, ou bien c'est ça le problème. Donc,
mmh.
On est là en train de travailler là-dessus pour voir si ça serait possible pour que les communes eux-mêmes se réunissent mmh. et décident de leur
date
de libération des champs en fonction des villages, de leur commune.
Et de leur saison.
Et de la saison.
D'accord. Monsieur Jean Mboké, en tant qu'agriculteur, nous avons bien écouté Boubacar Hama et le SP de la COFODEP qu'il y a bien sûr un mécanisme à suivre pour fixer la date de libération des champs. Vous qui êtes les acteurs locaux, est-ce que vous êtes associés ou comment vous, expliquez-nous comment vous participez?
Oui, les agriculteurs ont toujours assisté à la prise de décision de la date de la libération des champs.
Mmh.
Au niveau communal, au niveau départemental, même au niveau régional.
Mmh.
Et ce qu'ils ont dit là, c'est vrai, des fois les dates ne sont pas respectées.
Oui.
Ce que Kofodo vient de dire, c'est bien.
Mm-hmm.
Si on arrive au niveau de chaque commune, voir le village, fixer la libération communale, ça serait mieux.
Mm-hmm.
Puisque les gens ne sont pas en même temps.
Mm-hmm.
Donc, vous voyez, même dans le même village, mm-hmm. vous allez voir que les gens, un champ vient de semer, l'autre n'a pas semé. Il y a des poches partout.
Mm-hmm.
Donc, ça peut vraiment... ils nous ont toujours invités à assister à la date de la libération.
Monsieur Abdou Garba, vous confirmez?
Oui, je confirme très bien. C'est vrai, même les éleveurs, ils ont toujours été conviés à ce genre de rencontres-là, vraiment.
Et vous faites des propositions aussi, parce que si vous venez, vous ne venez pas pour rester et puis écouter l'administration et les autorités coutumières aussi. Est-ce que vous participez au débat pour la fixation de ces dates-là?
Bien sûr, on participe et on a toujours fait des propositions par rapport à ça, vraiment.
Et les propositions sont prises en compte?
Bien sûr, bien sûr.
FODEP qui sont là, ils prennent note pour pouvoir améliorer les choses. Chaque réunion.
La commission foncière départementale, est-ce que c'est elle qui est l'autorité qui communique la date de libération ou c'est qui communique?
Non, nous c'est juste, c'est un service technique comme les autres, donc qui regroupe à son sein tous les services techniques départementaux. Mm-hmm. Du département, en concertation aussi avec les associations, parce que même les associations, la chefferie traditionnelle est membre mm-hmm. de la commission foncière. Donc, mm-hmm. nous, on organise les réunions de libération des champs en collaboration avec les mairies et les départements. Mm-hmm. Et puis, les décisions qui sont issues de ces réunions sont communiquées par les mairies et les départements mm-hmm. au niveau de et le gouverneur, parce que l'arrêté est pris par le gouverneur. Mmh. Donc, et c'est le préfet aussi qui fixe la date, la tenue de la réunion mmh. et qui préside aussi la réunion mmh. au niveau du département. Au niveau de la commune aussi, c'est le maire.
Mmh. D'accord. Et par quel moyen on communique? Est-ce que c'est à la radio? Est-ce que c'est un crieur public qu'on prend? Comment ça se fait, le mécanisme pour communiquer, pour que l'information parviennent aux acteurs ruraux?
D'habitude, c'est que c'est le gouverneur, quand il prend la décision, il envoie ça au préfet. Donc le préfet communique au maire. Maintenant, le maire aussi, il communique à sa population. C'est ce que c'est.
D'accord. Monsieur Amabedi, comme vous êtes personne aux ressources.
Oui, bon, pour les réunions, d'abord, on vous envoie des convocations. Mm-hmm. À chaque structure, on envoie des convocations pour dire tel jour, il y a une réunion à la mairie. Et pour la libération des champs. Mm-hmm. Donc les gens viennent. Au niveau du département, c'est la même chose. Au niveau de la région, c'est la même chose. C'est pas des convocations. Mm-hmm. C'est-à-dire une fois que le gars a une convocation, là, il sait qu'il est convié. Parce que deux fois, la radio, le gars peut dire que je n'ai pas entendu par la radio.
Mm-hmm. Ouais, donc il y a une correspondance écrite.
C'est une correspondance écrite. Mm-hmm. C'est par correspondant. En tout cas, quand j'étais à la tête de l'association, dans l'une des associations, c'est comme ça. Mm-hmm. Chaque fois quand on nous convie, mm-hmm. on nous envoie des convocations mm-hmm. par écrit pour nous dire à telle date de se réunir. Et nous allons avec nos propositions. Mm-hmm. Des fois, vous savez, on arrive avec un consensus, mm-hmm. on arrive à s'entendre.
À s'entendre. Oui, oui. Okay. Mais si vous vous entendez, vous fixez la période ou bien vous fixez la date, comment vous faites pour parvenir l'information, la date aux agriculteurs pour leur dire, bon, hey, écoutez, à partir de tel moment, on veut que vous terminiez vos récoltes, vous ramassez ce que vous avez à ramasser et puis vous emmagasinez pour libérer les champs. Ou bien vous allez dire aux agriculteurs, bon, écoutez, ne descendez pas, attendez à telle date, commencez à descendre à partir de cette date.
C'est-à-dire on fait une sensibilisation okay. au niveau des marchés mm-hmm. et des associations. Le représentant de l'association, il dit à ses au niveau de son association mm-hmm. et à ses adhérents, à ses membres, mm-hmm. ainsi de suite. Mm-hmm. Et deux fois, les autorités coutumières mm-hmm. et administratives, mm-hmm. ils font marché par marché pour dire aux éleveurs, aux agriculteurs, la date fixée étant. Mm-hmm. Et il y a la radio aussi qui communique.
Ok, voilà. Oui, oui. Merci donc. Mm-hmm. Maintenant, M. Jean Bouquet, vous êtes agriculteur. Selon vous, pourquoi la date n'est pas respectée?
La date n'est pas respectée puisque les cultivateurs ne récoltent pas au même moment. Il y a le mil tardif, il y a des gens qui ont semé tardivement, il y a d'autres qui ont semé d'avance. Mm-hmm. Actuellement, on vous dit qu'il y a des gens qui ont déjà mis le mil dans leur grenier. Mm-hmm. Et d'autres ça, attendent encore le mil, le même pas mil. Donc c'est ce qui fait que la date, là, deux fois, ça pose des problèmes.
Monsieur Abdou Garba, vous qui êtes proche des éleveurs, selon vous, pourquoi les éleveurs ne respectent pas ou bien ne peuvent pas respecter cette date de libération?
Bon, c'est dans certaines circonstances que les éleveurs ne peuvent pas respecter les dates. Mm-hmm. Si je dis certaines circonstances, il y a le manque d'eau, manque de pâturage, mm-hmm. les aires de pâturage, donc vraiment les points d'eau, c'est ça. Mm-hmm. C'est pourquoi des fois vraiment on fixe une date. Si tous ces problèmes-là arrivent, mm-hmm. on ne peut pas respecter. On ne peut pas.
Boubacar, pourquoi la date n'est pas respectée, selon vous? Qu'est-ce qui peut amener que la date ne soit pas aussi respectée?
En tout cas, comme l'a dit les autres, c'est la même chose. En fait, au niveau même des cultures, mm-hmm. Donc, par exemple, si on parle maintenant, déjà des autres ont récolté et d'autres n'ont même pas commencé même à goûter à leur mille. Et il y a aussi le manque de, comment dirais-je, de l'eau dans les aires de pâturage. Mm-hmm. Et il y a aussi, parfois, on laisse, comment dirais-je, jusqu'à la fin de la saison pour proposer une date. Mm-hmm. Donc, ce sont des choses qu'on devrait anticiper. Mm-hmm. Donc, avant que même qu'il y ait peut-être les récoltes, mm-hmm. Donc, on devrait un mois d'avance se réunir pour proposer peut-être une date de 2 ou 3 mois comme ça. Peut-être ça peut aller comme ça.
D'accord. Boubacar, quand un conflit surgit entre un agriculteur et un éleveur, pendant la libération ou bien l'approche de la libération de ces champs, qu'est-ce qu'il faut faire? L'agriculteur, qu'est-ce que l'éleveur doit faire pour qu'il n'y ait pas un conflit?
En tout cas, d'abord, si le dégât champêtre a eu lieu avant la date de la libération des champs, donc l'agriculteur a le droit de demander l'indemnisation. Mais si c'est après la date, parce qu'il y a d'autres agriculteurs qui laissent après, qui tardent, si c'est après la date, il n'y aura pas d'indemnisation.
Maintenant, si le dégât est fait,
Il y a une procédure à suivre. C'est d'abord la conciliation entre les deux parties. Agriculteurs et éleveurs, ils peuvent s'entendre sur le lieu même des dégâts. Et ils peuvent régler leurs différends entre eux là-bas, sans que même le chef du village ne soit au courant. Donc, si ça n'a pas marché, donc ils peuvent se rendre au niveau du chef du village, donc au niveau du chef du village qui va aller sur le terrain ou bien avec ses représentants, il va constituer donc un comité donc qui va aller sur le terrain avec les deux agriculteurs et leurs témoins le représentant du chef du village qui est le président de la commission foncière de base. Donc il va venir et ils vont constater, ils vont lui rendre compte. Donc si à travers ça le chef du village a eu à concilier les deux parties, il va dresser un procès verbal de conciliation. Le cas contraire, donc il va dresser un procès verbal de non-conciliation pour les transférer au niveau du chef du canton. Donc, le chef de canton aussi, il va suivre la même procédure. Et si les deux parties se concilient au niveau du chef du canton, il va dresser un PV de conciliation. Si c'est le contraire, donc il va les transférer au niveau de la justice, donc à travers donc, un document de procès verbal de non-conciliation. Donc, c'est la justice qui va juger. Donc, c'est ça la procédure. Mais comme l'a dit, les juristes le disent bien, ils disent un mauvais arrangement vaut mieux qu'un jugement juste. Donc vaut mieux entre nous qu'on s'arrange, parce que quand on s'arrange, déjà il y a beaucoup de liens qu'on a tissés. Mais quand on vient à la justice, donc tout ça là sera coupé. Donc c'est ça la procédure à suivre.
D'accord, merci. Monsieur Amabedi, quelles sont les mesures à prendre pour faire respecter cette date de libération, une libération qui, comme nous l'avons dit dans notre introduction, conduit à des conflits?
Bon, c'est-à-dire, pour fixer une date, il faut vraiment, pour moi, qu'il y ait un consensus entre les éleveurs et les agriculteurs. Parce que ce sont les acteurs. En fixant les dates sans les éleveurs et les agriculteurs, ça ne sert à rien. Donc, et pour respecter, les gens ont dit ça. Les animaux viennent par manque d'eau. Les animaux et les animaux des autres départements qui viennent ici nous envahir. Donc, vraiment, les mesures à prendre, c'est surtout là où il y a les aires de pâturage à Le Fakara, aménagement des points d'eau pour pouvoir contenir les animaux au moins quelques semaines avant que les autres finissent. Et les animaux étrangers qui viennent là, il faut les faire passer, ils n'ont qu'à aller chez eux. Ils n'ont qu'à aller chez eux parce que c'est surtout les animaux des autres régions qui nous font beaucoup de dégâts. Et surtout encore, il y a les moutonniers là. Quand ils passent là, ils font des dégâts, ils déguerpissent, ils quittent et ils laissent les problèmes aux autres
éleveurs qui sont sur place.
Oui. Donc vraiment, c'est une question de sensibilisation. Mmh. Et de voir exactement la date qui convient. Mmh. Parce que quand on prend ici, on dit qu'il faut fin novembre pour la zone, alors que déjà, fin octobre, tout est fini, il n'y a rien dans les champs.
Monsieur Jean Bouquet, agriculteur, qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous qui êtes agriculteur, que vous respectiez la date de libération?
La date de libération peut être respectée si vraiment on prévoit des aires de pâturage et des points d'eau. Les éleveurs vont se camper là-bas. Mm-hmm. Par exemple, il y a eu une année, on a déplacé les associations pour aller rencontrer les éleveurs, les sensibiliser avant qu'ils ne descendent. Mm-hmm. Déjà, ils ont une notion, ils savent comment se camper quand ils viennent. Mm-hmm. Mais il n'y a pas un endroit où camper les animaux. Vous voyez, les dégâts vont commencer. Mm-hmm. Il faut prévoir des aires de pâturage. Les aires de pâturage ne suffisent pas. Les aires de culture ne suffisent pas. La zone est surchargée. Il faut vraiment un travail très, très, très sérieux pour qu'on puisse éviter ces choses-là. Là, si toutes ces choses sont faites, mm-hmm. on peut respecter les dates.
Mm-hmm. Oui. Et quelle est la participation, selon vous? Qu'est-ce que les associations qui luttent pour la défense des droits des agriculteurs et des éleveurs, qu'est-ce que vous pensez ils doivent faire en action concrète pour vous aider à respecter cette date-là?
De toutes les façons, il faut qu'on s'entende entre nous. Voilà la date qui est prévue. Est-ce qu'elle nous convient? Mm-hmm. Et de là, s'il y a un problème, il faut le résoudre à temps avant que la date ne soit diffusée. Mm-hmm. Mais une fois que la date est déjà diffusée, mm-hmm. vous voyez, c'est un problème. On ne peut plus reculer en arrière. Mm-hmm. Voilà.
Monsieur Abdou Garba, qu'est-ce que l'AREN a eu à faire comme action concrète pour que les éleveurs puissent respecter la date de libération des champs?
En tout cas, à ma connaissance, tout ce que l'AREN a pu faire, c'est une forte sensibilisation. Une forte sensibilisation, vraiment. Donc, éviter de prendre des enfants pour conduire les animaux au pâturage. Vraiment, ça, c'est très important. Voilà, donc... Je pense que c'est, si je dis la sensibilisation, tout est dedans. Et il y a beaucoup des aires de pâturage que nous, en tant qu'association d'éleveurs, on a pu défendre. Et présentement, on a une aire de pâturage qui est en conflit, qui est à la justice. On est là en train de sensibiliser les éleveurs pour que vraiment chacun évite de rentrer dans le droit de quelqu'un. Voilà, donc c'est ce que nous on peut vraiment faire.
Monsieur Hamma Bedi, oui. Quel est l'appel que vous avez à lancer à l'endroit des autorités administratives, coutumières, des associations paysannes, des agriculteurs et des éleveurs qui sont les acteurs locaux, pour que les conflits qui naissent de la libération des champs soient endigués, ou bien qu'on trouve une solution qui puisse diminuer ça davantage?
L'appel que je lance, c'est surtout les autorités administratives et coutumières. C'est de faire respecter les textes. Les textes sont là, il faut les faire respecter. Nous voulons les zones de pâturage dans le Pacara. On doit mettre des points d'eau pour qu'on puisse au moins garder les animaux 2 ou 3 semaines avant la libération des champs. Et à l'endroit des associations, de continuer de sensibiliser les acteurs, c'est-à-dire les agriculteurs et les éleveurs. Parce que continuer à les sensibiliser, à que chacun sache son droit et ses devoirs. Et surtout, quand on essaie de fixer les dates, il faut toujours chercher qu'il y ait un consensus entre les deux clans, entre les agriculteurs et les éleveurs, qui s'entendent eux-mêmes sur la date et que maintenant l'autorité entérine. Mais vraiment, c'est surtout le respect des textes en vigueur. Au moment de la colonisation, avant l'indépendance, il n'y avait pas fixé la date pour la libération des champs. Comment c'était organisé? C'était la chefferie traditionnelle qui avait organisé comment les animaux descendaient. Quand je prends l'exemple du canton de Birni, il y a 3 endroits, à Birni, à Rogi et à Garbou. Donc tous les animaux de la région de Falmé et autres, ils descendent à Garbou. Quand ils viennent à Garbou, dans le champ du chef, ils restent là-bas pendant une semaine. Une semaine, ils vont à Guillaye. Il faut une semaine, la troisième semaine avant d'aller à Felmey, déjà tout est fini. Et ça a évité les secondes. Donc, dans chaque groupement, il y a des animaux viennent, ils font leur une semaine ou 2 semaines pour faire leur fête leur retour et tout.
Résistance.
Et ça permet aux autres qui n'ont pas fini de finir vite leur récolte. Et surtout, je lance l'appel aux agriculteurs. Il y a des champs pièges aussi. Les gens qui viennent, ils savent que l'endroit là, c'est un couloir de passage, une aire de passage. Il faut un des petits champs pour pouvoir attirer les animaux. Donc, il faut que les éleveurs respectent les champs et il faut que les agriculteurs le sachent. Quand on dit libération de champs, tu restes là, la date n'est pas terminée, ou tu restes quelques bottes dans le champ pour qu'il y ait des dégâts et pour l'indemnisation. Donc vraiment, il faut que chacun respecte l'autre. Quand chacun respecte l'autre, l'agriculteur s'occupe de son champ et l'éleveur s'occupe de ses animaux. Je crois que ça peut aller.
Monsieur le secrétaire permanent Boubacar, quel est l'appel que vous avez à lancer à l'endroit des acteurs ruraux pour qu'ils puissent respecter la date de libération?
L'appel que j'ai à lancer, c'est surtout le respect des tests. Parce que toutes les activités du monde rural sont régies par des tests. Et les tests sont là, sont disponibles, mais c'est l'application qui cause problème. Donc quand on applique les tests, il n'y aura pas de conflit entre agriculteurs et éleveurs. Chacun connaît son espace et chacun connaît ses limites. Donc, et ses droits également.
En conclusion, chères auditrices et auditeurs du studio Kalangou, notre forum d'aujourd'hui qui a eu pour thème la date de libération des champs, à travers les contributions des uns et des autres, nous pensons que cela vous a édifié. Et nous constatons également que la date de la libération des champs ne se fait pas à main levée. Elle est fixée en concertation avec les autorités administratives, coutumières et avec la participation des acteurs locaux. Nous pensons également que notre forum a édifié les différents acteurs, notamment les agriculteurs et les éleveurs. Nous espérons aussi que cette année et les années à venir, les dates de libération des champs seront scrupuleusement respectées dans le département de Birnin Gawri. Nous sommes à la fin de notre forum qui a eu pour thème « Respect du délai de libération des champs dans le département de Gougou ». Pour ce forum, nous avons eu comme invité M. Boubacar Oumarou. Il est le secrétaire permanent de la commission foncière départementale COFODEP. Nous avons eu également comme personne ressource Boubacar Hamma Beidi. Nous avons eu comme représentant des agriculteurs ici Jean Bouquet. Nous avons eu également avec nous ici sur ce plateau Abdou Garba. Il est le représentant de l'AREN, l'association pour la redynamisation de l'élevage au Niger. À la modulation, je suis Ali Niali Abdoul Moumouni. À la technique, nous avons Moustapha Ayouba. Merci pour votre contribution. Au revoir.